avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Deux journalistes, mais aussi deux intellectuels, Christophe Barbier et Pascal Bruckner, c'est le matin des flagorneries, mais pas simplement pour le compliment, parce qu'il y en a un peu ras-le-bol de cette idée que la violence symbolique n'a aucun rapport avec la violence tout court, Christophe. C'est l'argument qui est donné, par exemple, par certains nombres de députés LFI ce matin pour justifier en disant « on a le droit d'égorger le président de la République », comme ça a été le cas, par exemple, des militants cégétistes à Perpignan. Vous en souvenez, ils faisaient le haka des rues de Liman et ils égorgeaient symboliquement le président de la République. Depuis quand on peut faire la différence entre la violence symbolique et la violence physique? Est-ce que c'est vraiment une séparation qui existe?
Non, bien sûr que non, mais cette séparation est proclamée par la gauche radicale depuis qu'elle a décidé d'une stratégie électorale. Mmh. C'est exciter la colère sociale, exciter cette colère violente sui generis qu'on a vue dans les Gilets jaunes, en espérant que ça va lui profiter à elle, la gauche radicale, dans les urnes. Mmh. Elle se trompe doublement. Quand on allume un incendie, on finit toujours par être emporté par cet incendie. Leurs ancêtres révolutionnaires pourraient en témoigner. Puis elle se trompe aussi parce que ce spectacle du désordre, de la violence, du risque de chaos, avant de provoquer l'éventuelle victoire électorale de la NUPES, provoquera un sursaut d'ordre, de désir d'ordre, qui, en 1799, a amené Bonaparte, et qui, là, pourrait profiter au RN. Donc il y a une double erreur de la part de la France insoumise. Par ailleurs, refuser le continuum.
Il y a une affaire précise quand même.
Mais oui,
c'est quand même un jeune homme qui se fait tabasser par 10 personnes dans une chocolaterie et qui se retrouve avec un scanner et à l'intérieur du scanner non seulement un traumatisme crânien mais un hématome qui est extrêmement dangereux.
Ce qui est très très grave. Il aurait pu y laisser sa peau s'il n'avait pas réussi à se rouler en boule et à se protéger. Il y a une photo du mois de mars où on voit une manifestation avec des drapeaux de syndicats contre la réforme des retraites devant cette chocolaterie. C'est pas seulement ces abrutis de lundi soir qui ont décidé que cette chocolaterie était une cible macroniste. Mmh. C'est avant que, dans une manifestation pour la réforme des retraites, qui aurait pu aller devant la préfecture, la mairie, une permanence parlementaire, en toute logique, on a décidé de faire un stop devant cette chocolaterie. Et les policiers ont été obligés de la protéger. Donc, c'est en effet une erreur de la gauche radicale de dire, ah ben, puisque c'est la famille du président, puisque le président a une politique qui nous déplaît, nous pouvons protester, manifester et donc armer un peu ceux qui sont dans la violence. Par ailleurs, dire violence de l'État explique, si ce n'est justifie, violence physique, c'est un abus de langage terrible. Il n'y a pas de violence de l'État. Il y a des politiques qui peuvent être dures, austères, d'une certaine forme de brutalité, mais la violence étymologiquement, c'est quand on porte atteinte à une personne.
Pascal, est-ce que vous avez le même sentiment sur cette affaire, à savoir que la violence symbolique est quand même l'antichambre de la violence tout court?
Oui, je pense que le grand défi de toute politique, c'est de ne pas ressembler à son ennemi. Or, je crois qu'aujourd'hui, on voit une chose qu'on avait déjà vue dans les années 30, c'est-à-dire qu'il y a deux fascismes en France, deux fascismes résiduels. Il y a celui du RN, qui est l'héritier de toute une tradition d'extrême droite, et il y a celui de la gauche mélenchoniste, et qui se caractérise par un certain nombre de traits. C'est d'abord le goût pour l'autoritarisme. Mélenchon ne supporte pas, par exemple, qu'on le contredise quand on l'interview. La fascination de la violence. La violence est l'accoucheuse de l'histoire, disait Karl Marx.
93, hein. Il y a une référence permanente.
Oui, à 93.
Et à la commune. Cette violence avortée dont il porte le deuil.
Exactement. Le pacte avec les islamistes en France depuis 2019, quand Mélenchon a défilé avec les frères musulmans et avec le CCIF, dissous depuis. Et puis, il y a ce retour qui est un symptôme de l'antisémitisme. Évidemment, camouflé sous le masque de l'antisionisme, l'illégitimité de l'État d'Israël, qui a encore été voté, il y a eu un vote là, il y a 15 jours, des communistes et de la France insoumise pour déclarer l'État d'Israël État d'apartheid, donc n'ayant pas le droit à l'existence. Tout cela fait que Mélenchon, c'est un peu toute proportion gardée, notre Jacques Doriot d'aujourd'hui, évidemment.
Il va apprécier.
Mais ça, tout le monde le dit, je ne suis pas le premier à le dire, il lui ressemble même physiquement, mais cette haine qui sort de sa bouche en permanence...
Mais est-ce que vous diriez qu'il est directement responsable de ce qui s'est passé.
Oui, évidemment.
Dans cette chocolaterie.
Il est indirectement responsable. Il n'était pas avec les agresseurs, mais il n'arrête pas d'exciter la colère, la violence des Français. Il part de la mauvaise République. C'est un tribun. Il est vraiment ce que Dan Poli, dans son premier livre, appelait un ingénieur du chaos. Dan Poli parlait de Poutine. Là, c'est Mélenchon. Et Mélenchon et ses troupes. Mathilde Panot, Bompard et les autres. Gary Rigaud qui disait qu'effectivement on pouvait guillotiner Macron, Prudhomme qui disait que au fond tout cela n'est pas très important, ces gens-là émettent des appels au meurtre direct, et là c'est tombé sur le petit-neveu de Macron, mais évidemment je ne doute pas un instant que si Emmanuel Macron était aux prises avec ces manifestants, il serait proprement lynché.
On se souvient aussi de Mathilde Panot qui a condamné fermement ces événements et qui l'avait traité de Caligula. Sur les 10 personnes, la dizaine de personnes qui ont été arrêtées, il y en a 4 qui vont être transférées donc devant la justice. Question et autre sujet, nous allons parler du Festival de Cannes puisque c'est évidemment l'ouverture depuis hier soir. Alors évidemment, ça paraît extérieur au sujet de la politique que nous traitons d'habitude, mais en même temps, ce festival s'ouvre sur des questions qui sont des questions parasociétales avec la Jeanne du Barry, avec le film de Catherine Corsini. Car là, on se retrouve, Christophe, sur un autre terrain qui est celui de la protestation post-MeToo à l'égard de stars comme Johnny Depp qui sort d'un procès à grand spectacle et d'un film de Catherine Corsini dont on dit que dans les préparatifs, un coach se serait trop approché justement d'une jeune femme qui était candidate pour jouer dans ce film. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... non pas le mélange des genres, mais est-ce que c'est tout à fait normal que le monde du cinéma soit... Parce qu'il y a eu une enquête du Festival de Cannes pour savoir si le film de Corsini avait le droit ou pas d'y participer.
Et c'est d'une totale confusion. Bien sûr, le monde du cinéma ne peut pas échapper au respect des lois sociales. Donc s'il y a eu de la maltraitance sur un plateau, s'il y a eu des soupçons, la justice peut enquêter et on peut avoir des sanctions. Et les acteurs sont des salariés comme les autres, si j'ose dire. Ils peuvent se retourner contre leur employeur s'ils considèrent avoir été maltraité. On a même vu des acteurs des décennies après dire mais nous étions jeunes dans un tournage, on nous a fait nous embrasser et on nous avait pas demandé notre consentement. C'était pour un Roméo et Juliette, je crois. Donc bon, très bien. Mais le festival, ce n'est pas ça. Le festival, ce sont des œuvres en compétition, montrées au monde, avec les débats que ça peut susciter. Venir troubler la production de ces œuvres parce qu'il y a eu des choses à contester, ça relève de la censure. C'est exactement comme venir dire, décrochons l'étoile de Picasso parce que Picasso n'a pas été exemplaire avec les femmes. Picasso n'a sans doute pas été exemplaire avec les femmes, à une époque où le regard sur cela n'était pas le même qu'aujourd'hui. Est-ce à dire que sa peinture en est pour autant mauvaise et qu'il faut la décrocher des musées? Faut-il interdire de lire Sade parce que son comportement n'a sans doute pas été exemplaire aux critères moraux que nous voulons appliquer aujourd'hui? C'est ça, cette confusion qui est dangereuse. C'est là où le dogmatisme et l'idéologie peut détruire l'art. La distinction entre l'œuvre et l'artiste, la vie de l'artiste, la personnalité de l'artiste, les actions de l'artiste, c'est une distinction fondamentale.
Pardon, pour toute une génération, j'en renverse mon café, ça devient inaudible.
Et il faut le rendre audible.
Justement.
Il faut que cette génération réécoute ce qu'a dit Franck Ferrand hier matin sur cette antenne en rappelant l'histoire du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes se crée juste avant la guerre, il n'a même pas le temps d'être créé, en réaction au Festival de la Mostra de Venise, totalement pris en main par Mussolini pour en faire une arme politique. On est donc bien dans la politique. Donc notre festival, notre vision démocratique de la culture doit résister à tous les totalitarismes, dont ces nouveaux totalitarismes qui veulent nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a de la politique dans ce festival, il y a aussi beaucoup d'économie avec l'absence de Netflix. Bon, évidemment, c'est un marché, le business est là. Mais il y a de la politique dans un festival. Quand il s'arrête en mai 68, ça a un sens. Quand il récompense tel ou tel film, ça a un sens politique. Les débats créés ont un sens politique. Donc il faut que ce festival résiste contre les nouveaux obscurantismes qui veulent empêcher tout simplement la production d'œuvres.
Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'il faut rappeler que le Festival de Cannes, Pascal Bruckner, est quand même la plus grande manifestation française à l'étranger. C'est l'endroit en France où on est le plus suivi dans le monde entier. Est-ce que vous avez le sentiment que cette année, c'est parti sur une base qui reste une base culturelle importante parce que le président du jury, Robin Hofslund, est quand même un grand anticonformiste. Il a eu 2 palmes d'or et ses sujets ont toujours été extrêmement grinçants et totalement antipolitiquement corrects. Ou est-ce qu'on est rentré dans une sorte de mélange de poujadisme et de puritanisme?
Oui, et aussi une haine de la culture. Quand vous lisez, par exemple, la lettre d'Adèle Haenel où elle fait ses adieux au monde du cinéma, sans doute parce que le monde du cinéma lui a tourné le dos depuis longtemps et que ça a traduit un dépit professionnel, on se dit qu'au fond, la culture est le dernier ennemi à abattre. Et là, évidemment, Christophe Barbier a raison. On voudrait juger Le Monde, d'après le tribunal du présent, qui est le seul arbitre de ce qu'il faut faire et ne pas faire, et plutôt dissoudre Cannes que de souligner que telle ou telle actrice a peut-être été frôlée de près par un technicien.
Et un coach dans le cas du film.
Et donc on cherche des petits détails pour abolir l'ensemble. Alors Cannes a toujours été une caisse de résonance, et je pense que cette année ce sera comme les autres années. Ça va être un certain chahut, il y aura des manifestations, la CGT va défiler sur la croisette pour les retraites. Mais d'ores et déjà les rôles sont distribués. Les méchants, il y en a deux, c'est Johnny Depp et c'est Maïwenn. Alors Maïwenn, parce que elle est MeToo, mais elle est un MeToo soft. Elle adore que les hommes la sifflent dans la rue, qu'on fasse des remarques sur son physique. Elle n'aime pas beaucoup Edwy Plenel, à qui elle a tiré les cheveux, ce qui est évidemment totalement condamnable. Et puis, dans ce film, elle fait une autobiographie d'elle-même à travers la Du Barry, une courtisane pauvre qui s'est hissée jusqu'au plus haut sommet du pouvoir en étant la maîtresse de Louis XV. Quant à Johnny Depp, qu'elle a choisi. Alors là, c'est le scandale absolu. D'ailleurs, j'ai lu ce matin une interview d'Edwy Plenel qui s'en indigne. Il y a ce procès avec Amber Heard qu'il a traîné au tribunal pour diffamation et il a gagné. Mais vous savez très bien que dans la théologie MeToo, si vous êtes accusé, vous êtes coupable. Le simple fait d'être accusé fait de vous un coupable pour l'éternité. Et donc, Johnny Depp devrait être interdit de croisette. Et là, je pense qu'il va y avoir des scandales.
Si rétrospectivement, on revisitait, et ça, Christophe, vous connaissez bien l'histoire du cinéma, comme d'ailleurs Pascal. Delon, l'affaire de Markovitch, ça voudrait dire que pour soupçon, il n'aurait jamais pu le tourner de sa vie.
Jamais, bien sûr.
Steve McQueen était un violent, il n'aurait jamais pu tourner de sa vie. La plupart des producteurs hollywoodiens se comportaient comme des affreux avec les actrices. Il n'y aurait pas eu de film hollywoodien. Ava Gardner et Frank Sinatra, on ne peut même pas parler de leur relation qui était surviolente.
Et dans l'histoire de la peinture que vous connaissez mieux que moi, tous les modèles et leurs peintres, vus à l'angle de MeToo, mais on détruit la plupart des chefs-d'œuvre dans ce cas-là.
Mais le raisonnement d'aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas de ce qui se passait avant. C'est-à-dire que nous, on dit c'est pas possible de travailler dans des conditions qui sont les conditions de la morale moderne parce qu'on n'aboutira plus à des chefs-d'œuvre. Et eux, ils vous répondent si vous voulez, nous, on ne peut pas être nostalgique du monde de Clouseau, qui est une certaine forme de monde du sadisme.
Bien sûr, mais.
Parce que c'est un monde que nous réprouvons.
Que les règles de travail en commun et de production d'œuvres en commun changent et qu'on ne dirige plus les acteurs sur une scène ou sur un plateau de cinéma comme avant. C'est très bien. Bien sûr qu'entre Hitchcock et ses actrices, il y avait des choses qu'on ne pourrait plus pratiquer aujourd'hui entre un réalisateur
entre lui et
ses
stars,
bien entendu. Et c'est très bien, ça s'appelle le progrès social. Mais vouloir détruire les œuvres du passé, vouloir condamner la carrière entière d'un artiste...
C'est pas encore le cas de Cannes aujourd'hui.
Cas de Cannes aujourd'hui, mais on y est dans beaucoup de domaines. Quand même, on change le titre des livres, on veut décrocher des musées certaines œuvres, on veut interdire la promotion de tel ou tel auteur, on veut arrêter de célébrer tel personnage, parce que s'il vivait aujourd'hui, son comportement serait considéré comme inacceptable. Cet obscurantisme-là, cet anachronisme terroriste, c'est un des plus graves dangers parce qu'il nourrit toute la cancel culture. Donc on va tout effacer. Vous savez, le mot nègre, il est dans des textes magnifiques de Victor Hugo. Si on n'a plus le droit de le mettre chez Agatha Christie, on n'a plus le droit de le mettre chez Victor Hugo. Retirons Victor Hugo des manuels. On ne s'arrête jamais quand on commence à rentrer dans le procès du passé à la lueur des critères moraux du présent.
Voilà, Johnny Depp qui va partir à Londres pour rendre hommage donc à Jeff Beck, l'un des plus grands guitaristes anglais de la grande période de la pop music, avec un hommage qui est rendu... et qui est parrainé par Eric Clapton. Voici quelques notes que nous avons recueillies et qui vous rappellent donc l'existence de ce gigantesque guitariste. La guitare de Johnny Depp, la guitare de Jeff Beck, avec Johnny Depp qui jouera de la guitare, Eric Clapton, évidemment, tous les musiciens anglais qui vont lui rendre hommage, comme ce fut le cas au Royal Albert Hall pour George Harrison. Merci Pascal d'être venu ce matin réfléchir avec nous et Christophe. Il est 8h59, nous avons rendez-vous pour le Flash de 9h, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Et puisque vous citiez Franck Ferrand tout à l'heure, Christophe, il arrive...